Les Juifs ramassèrent à nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai montré beaucoup de belles œuvres de la part du Père. Pour laquelle de ces œuvres allez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider, mais pour blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? Moi j'ai dit, vous êtes des dieux. » Ainsi, elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être annulée. Et vous, vous dites à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, croyez les œuvres, afin de savoir et de comprendre que le Père est en moi et que moi, je suis dans le Père. » Ils cherchèrent de nouveau à le saisir, mais il leur échappa. Il retourna de l'autre côté du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent à lui. Ils disaient, « Jean n'a accompli aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Vous pouvez vous asseoir. C'est le dernier débat entre Jésus et ses auditeurs que Jean rapporte dans son évangile. La déclaration de Jésus, « Moi et le Père, nous sommes un, mais le feu aux poudres. » Les Juifs ramassèrent des pierres pour le lapider, nous dit Jean. Jésus, que va-t-il faire? Il prend le taureau par les cornes, n'y va pas par quatre chemins. « Pour laquelle de mes œuvres allez-vous me lapider ?» leur dit-il. La réponse ne se fait pas attendre. « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider, mais pour blasphème. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Du point de vue d'un Juif, on peut comprendre qu'ils sont scandalisés. « Moi et le Père, nous sommes un. » C'est une affirmation qui ne manque pas de souffle. C'est un blasphème. À moins que ce soit vrai. Et c'est là que Jésus dit une chose très étonnante. N'est-il pas écrit dans votre loi, moi j'ai dit, vous êtes des dieux. Ainsi elle appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et vous, vous me dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. En fait, Jésus cite un psaume, le psaume 82. C'est encore un texte très difficile. Je vais vous le lire. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et favoriserez-vous les méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin, rendez justice aux pauvres et aux déshérités. Faites échapper le faible et le pauvre, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, toutes les fondations de la terre vacillent. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains, vous tomberez comme n'importe quel prince. Lève-toi, ô Dieu, juge de la terre, car tu as toutes les nations pour patrimoine. » Dieu s'adresse ici à des personnages qui font partie de son assemblée et qui sont appelés Dieu. Il leur reproche de pervertir la justice et les exhorte à se ressaisir. Leur qualité de Dieu ne les empêchera pas de mourir comme les humains. Ce qui est étonnant, et c'est là que l'argument de Jésus va se loger, c'est que ces personnages sont clairement subordonnés à Dieu. inférieur à Dieu. Et néanmoins, Dieu, ou du moins le psalmiste, c'est pas très clair, les appelle Dieu. Pourquoi Jésus cite ce texte-là? Est-ce pour dire à la foule enragée, voyez, Dieu lui-même appelle Dieu des personnes autres que lui-même? Ce n'est donc pas parce que je me dis fils de Dieu que je me mets au même niveau que Dieu. Si c'est bien ça, Jésus est en train de relativiser ses prétentions. Il se dégonfle, si vous me passez l'expression. Cette façon de comprendre pose tout de même un problème. Nous affirmons dans notre confession de foi, comme tous les chrétiens sur la surface de la terre, que Jésus est Dieu. Et l'évangile de Jean lui-même le dit d'ailleurs dans son tout premier verset. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Alors de deux choses l'une, ou bien ce n'est pas vrai, et Jésus n'était pas Dieu. En quel cas, la foi chrétienne s'effondre avec fracas. Si Jésus n'était qu'un homme, il n'a pas pu porter la punition de nos fautes à notre place. Et notre théologie du salut n'est qu'une vaste fumisterie. Ou bien c'est vrai. Jésus est Dieu. En quel cas, on ne comprend pas vraiment pourquoi il tourne autour du pot avec des arguments spécieux qui ne font que créer un écran de fumée. Dans cette deuxième perspective, Jésus semble être un dieu, mais un dieu mesquin, un dieu sophiste, qui, lorsqu'il est confronté au danger, n'hésite pas à duper ses adversaires. Aucune de ces deux perspectives n'est franchement enthousiasmante. Par ailleurs, tout ça n'harmonise guère avec ce que nous apprenons sur Jésus dans les évangiles. Justement, dans notre texte même, Jésus vient de dire qu'il est un avec le Père. Aucun des dieux du psaume 82 ne peut dire cela. Jésus ne relativise donc pas sa divinité. L'on s'en fout. Au chapitre 8, nous l'avons entendu dire, avant qu'Abraham ne vienne à l'existence, « Je suis ». Allusion sans ambiguïté à son identité avec le Dieu de Moïse. Au début du chapitre 10, il a affirmé qu'il était le bon berger. Allusion sans ambiguïté à la promesse rapportée par le prophète Ézéchiel que Dieu lui-même s'occuperait des brebis de son peuple. Non, Jésus n'est nullement en train de sortir par la petite porte en relativisant sa divinité. Ça ne tient pas. En même temps, les arguments trompeurs, ce n'est pas trop sa tasse de thé non plus. Quand il a des choses à dire, Jésus les dit, et ce n'est pas la peur pour sa sécurité qui le freine. Il appelle les pharisiens et les scribes hypocrites, de manière publique et répétée. Il dit à Ponce Pilate que son pouvoir est tout relatif. Et au moment crucial de son procès devant le Sanhédrin, il lance au grand prêtre que le Fils de l'homme, dont parle le prophète Daniel, qui vient sur les nuées pour recevoir le pouvoir des mains de Dieu, ce Fils de l'homme, c'est lui-même. Ce n'est pas comme ça que parle quelqu'un qui se cache derrière un écran fumé. Mais comment comprendre alors ? Avant que je vous dise ma manière de comprendre, retournons un peu au psaume que cite Jésus, au psaume 82. Pour faire simple, il y a deux façons de comprendre ce texte. Pour les uns, Dieu est en train de s'adresser aux juges du peuple d'Israël. Et ils sont appelés Dieu parce qu'ils sont investis de la mission de juger, ce qui est un privilège divin. En d'autres mots, il s'exerce un ministère divin par délégation. Bien que de grands théologiens, que j'estime beaucoup, aient défendu cette thèse, je lui préfère une autre, qui voit dans ces dieux des êtres de la sphère divine. En effet, le mot Dieu, Elohim, peut parfois désigner des êtres appartenant à l'au-delà. J'en veux pour preuve le récit où, à la veille de sa mort, le roi Saül, désespéré par le silence de Dieu, charge une femme d'évoquer l'esprit du juge Samuel, qui est mort peu avant. Et quand Samuel apparaît, la femme est effrayée. Elle dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Bien entendu, Samuel n'est pas un Dieu au sens étroit du mot, mais étant mort, il appartient au séjour des morts, à l'au-delà. Le mot « Dieu » peut donc parfois désigner des êtres appartenant à cette sphère de l'au-delà, la sphère divine. Et dans le psaume 82, ce sont des membres du conseil divin. Pour faire simple, on va dire que ce sont des anges. Le mot « ange » signifie « messager ». Les personnages qui nous intéressent ne sont pas vraiment des messagers, mais plutôt des chefs et des juges. Mais comme notre vocabulaire concernant les habitants du ciel est assez rudimentaire, on va dire qu'il s'agit d'anges, faute de mieux. Il y a ici et là dans l'écriture des textes qui peuvent se comprendre en ce sens que Dieu a confié des responsabilités terrestres à des anges, qu'il a placé des anges à la tête des nations. Le prophète Daniel, notamment, rencontre Michel, qui semble être un ange à la tête du peuple d'Israël et qui est retardé par une lutte avec le prince du royaume de Perse. Il est également question dans ce texte du prince de Grèce, donc un être angélique, on va dire, qui est à la tête du peuple grec. Bien entendu, ce sont des textes très rares et affreusement difficiles. Et il ne faudrait pas construire des hypothèses trop recherchées sur eux. Mais il n'empêche qu'il semble y avoir des êtres angéliques qui sont associés aux nations. On peut imaginer que ces êtres se trouvent dans le conseil divin. Et comme les nations se sont enfoncées dans l'idolâtrie, il ne semble pas non plus choquant que Dieu reprenne ses anges, qu'il les menace de mort. Nous savons par ailleurs que la seconde mort frappera aussi le diable et ses anges. Il me semble donc qu'on peut comprendre que les dieux du psaume 82 sont les anges à qui Dieu a confié les nations. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Vous êtes libre de ne pas retenir cette lecture. Si c'est la bonne façon de comprendre le psaume, le discours de Jésus prend une coloration intéressante. Jésus serait en train de diriger les regards des Juifs vers les lieux célestes, tels qu'ils transparaissent dans ce psaume. Nous y voyons des personnages distincts de Dieu qui sont appelés Dieu. C'est troublant, on a du mal à comprendre. Il y a de quoi, mais justement, c'est comme si Jésus voulait montrer à ces Juifs que les réalités du ciel, c'est compliqué. Qu'il y a des choses dans ces sphères que les humains que nous sommes ont du mal à comprendre. C'est du Shakespeare avant l'heure. Il y a plus de choses dans le ciel, Horatio, que n'en rêve votre philosophie. Pourquoi Jésus dit-il cela à ceux qui veulent le lapider? Je pense qu'il veut les protéger d'eux-mêmes. Ils sont en train de mettre la main sur Dieu devenu homme. C'est extrêmement grave. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre eux est devenu chrétien plus tard, mais si c'est le cas, je pense qu'il a dû avoir des frissons en pensant à ce moment noir de sa vie où il allait lever sa main contre le Dieu incarné. Jésus désarme ses agresseurs en citant ce psaume. Si je comprends bien, il le fait non pas pour relativiser sa propre divinité, ni pour se défiler par des arguments spécieux, mais pour les empêcher d'aller trop loin dans leur folie, pour les empêcher de commettre l'irréparable. Il sait qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre le mystère de sa personne. Même ses apôtres, pourtant mieux disposés, ne pouvaient pas encore comprendre certaines choses. Certes, il aurait pu dire, mais enfin, sachez que je suis Dieu. Mais alors les pierres auraient volé. Comme son heure n'était pas encore venue, je ne doute pas du tout du fait que Jésus n'y aurait pas trouvé la mort. Mais les adversaires de Jésus auraient définitivement franchi la ligne jaune. En déroutant ses interlocuteurs, avec un détail biblique étonnant, Jésus fait preuve de compassion, de bienveillance. Il interrompt, du moins pour l'instant, l'engrenage diabolique qui aurait fait d'eux des assassins en puissance du seul juste qui a jamais vécu sur cette terre. Il contre la violence avec la non-violence, avec de la bienveillance. Et en même temps, il se met à leur niveau, en leur signalant que leur théologie est sans doute trop simpliste, incomplète, qu'il y a des choses à découvrir, des choses dont la révélation est pour bientôt. Si j'ai raison de lire ce texte de cette manière-là, on peut en tirer un principe intéressant concernant notre façon de nous adresser aux autres, notamment en matière de foi, mais même un peu au-delà. Si nous voulons être des imitateurs du Christ, nous sommes invités à faire de même, à faire preuve de bienveillance, notamment dans nos paroles. C'est assez important dans tout ce qui concerne ce que nous appelons l'évangélisation. Il peut être tentant, et c'est certainement facile, il peut être tentant de délivrer le message, point barre, brut de décoffrage, des quatre vérités, quelque chose de ce genre. Voici le colis, je vous souhaite bonne réception, hein. Veuillez signer ma décharge, ici en bas, bonne journée. Mais ce n'est pas ça. Si nous cherchons le bien de nos contemporains, nous soignerons notre façon de communiquer. Ça me fait penser à une histoire que j'ai déjà racontée ici. Avec Karine, on a rendu visite à des amis qui habitaient à Munich. Et ces amis nous ont emmenés flâner un peu au centre-ville. J'ai vu un prédicateur qui s'était mis sur un piédestal et qui prêchait. J'aime bien voir comment font les collègues, donc je l'ai observé avec intérêt. Et ce prédicateur était là, au milieu d'un flot ininterrompu de gens qui sortent du métro, et il prêchait. Personne, à part moi, l'écoutait. Mais ça ne semble pas le gêner plus que ça. Il ne regardait d'ailleurs à peine les gens. Il déroulait son discours, puis il est descendu de son piédestal et il a plié bagage. Devoir accompli. Alors, je dis bravo pour le courage. Il en faut pour faire ça. En même temps, ça me paraît un peu court. Ne faudrait-il pas chercher à intéresser les gens un peu? En commençant peut-être par nous intéressant à eux, à ce qu'ils vivent, à ce qui les émeut, à ce qu'ils peuvent entendre et comprendre aussi. Pour atteindre nos contemporains, il faudra faire un peu plus d'efforts que de planter nos chairs dans les zones piétonnes de nos villes, me semble-t-il. Si nous cherchons le bien de nos contemporains, nous soignerons certes notre façon de communiquer, mais aussi le contenu de ce que nous leur disons. En disant ça, je pense tout de suite à ce collègue de fac avec qui j'étais très ami. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais c'est le privilège des gens âgés de radoter un peu. Quand j'ai quitté mon pays pour faire mes études, cet ami et moi, on s'est perdu de vue. Puis un jour, il m'a contacté. Jeune converti que j'étais, je lui ai tout de suite parlé de ma foi. Malheureusement, sans aucun discernement. Je lui ai tout délivré en bloc, assorti de jugements sur des choses qu'on faisait ensemble dans le temps et encore d'autres âneries du genre que j'ose même pas vous raconter. Avec comme résultat qu'il a pris peur, qu'il a rompu le contact. Je n'ai jamais réussi à renouer le lien, malgré plusieurs tentatives. j'ai définitivement perdu un ami et il a perdu l'occasion d'entendre un proche lui parler de Jésus. Et tout ça simplement parce que je n'ai pas su doser. J'ai dit plus qu'il ne pouvait entendre au point où il en était. C'était un peu comme si Jésus avait dit à ses interlocuteurs, au cas où vous n'aurez pas encore pigé, je suis Dieu lui-même venu sur terre. C'est vrai, mais c'est violent et sans doute pas assez bienveillant. Mais ne croyez pas que je vous parle uniquement d'évangélisation. Il n'y a pas longtemps, un prédicateur que je connais bien a prêché dans son église. Et comme d'habitude, les gens ont écouté sans broncher, puis certains lui ont dit « c'était bien » à la fin du culte. C'est grand classique donc. Et le soir, mon ami, par hasard, surfe un peu sur Internet. Et par hasard, il est tombé sur le site de quelqu'un de son église. Et quelle n'était pas sa surprise quand il est tombé sur un article assassin consacré à sa prédication du matin. J'ai eu l'occasion de lire ce billet. Je dois dire que j'ai rarement rencontré une telle violence verbale. Une exécution en règle. Le premier choc passé, mon ami a essayé de décoder ce texte. Et à force d'y réfléchir, il y a finalement trouvé des éléments intéressants. Mais ces éléments étaient couverts d'une telle couche d'invectives, d'horreurs et d'effets de manche rhétorique qu'il a failli les rater. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que là aussi, quelqu'un n'a pas su dire les choses avec bienveillance. Et c'est dommage, parce qu'il avait des choses à dire. Des choses qui auraient pu stimuler mon ami et lui montrer aussi en quoi sa prédication se prêtait à des malentendus. C'est une chose de faire un discours, c'en est une autre de bien se faire comprendre. Mais cette personne qui s'était offusquée de certains détails de sa prédication a préféré vider son sac, se défouler sur son clavier, relâcher toute la violence contenue derrière son beau sourire dominical. En le faisant, elle a, me semble-t-il, manqué de bienveillance envers son frère. Je sais bien que parfois nous sommes tellement malheureux ou enragés que nous n'avons pas la force de nous montrer bienveillants. Si c'est le cas, confions notre haine ou notre chagrin à Dieu. Crachons notre venin devant Dieu, il peut entendre ces choses. Et les psalmistes l'ont parfois fait. C'est beaucoup plus sage que de les confier à Internet. Mais quand nous adressons des messages aux autres, essayons de suivre l'exemple de Jésus et de dire ce que nous avons à dire avec bienveillance. Essayons de devenir des non-violents. Je rencontre souvent des gens qui sont fiers de leur franchise et qui claironnent « je dis toujours ce que je pense ». Je crois que c'est trop court pour un chrétien. Un disciple de Jésus est certes appelé à dire la vérité, mais avec bienveillance. Il est appelé à réfléchir à l'effet de ses paroles sur ceux qui l'écoutent. Et si l'effet serait trop violent, à faire preuve de finesse. Parfois, il faudra travailler un peu la manière de le dire. Parfois, il faudra distiller la vérité en petites doses pour la rendre supportable. Parfois, il faudra attendre un peu pour que les esprits se calment. Il est impossible de donner des recettes, mais ne perdons pas de vue l'étoile polaire. Il s'agit de gagner nos semblables, non pas de les perdre. Je laisse le mot de la fin à Paul qui écrit la chose suivante aux Éphésiens. Quand nous serons parvenus à l'unité de la foi, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Nous ne serons plus des tout-petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués, égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. En disant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est là ma prière pour vous et pour moi, que nous devenions des bienveillants et que nos paroles en témoignent, que nous devenions des non-violents, de véritables hommes, comme Gandhi l'aurait dit. Amen. Lorsqu'un homme prétend être non-violent, il ne doit point s'irriter contre qui l'a outragé. Il ne lui souhaitera aucun mal, il lui souhaitera du bien.